Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance de la prière. Nous arrivons au numéro 7. À l'étude numéro 7, et notre première méditation, c'est « Il les aima, lui, Jésus, jusqu'à la fin. » Notez, s'il vous plaît, Saint Jean, chapitre 13, verset 1. Une part importante de ces exercices consiste à réfléchir au plus grand signe d'amour que nous a laissé le Christ, c'est-à-dire celui de la Sainte Cène, de rompre le pain. Voyez-vous ? Pour les catholiques, ça s'appelle l'Eucharistie. En guise de clé pour ouvrir à ce signe, je prendrai donc le premier verset du chapitre 13 de Saint Jean. Là, il est dit qu'avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'au bout. En disant cela, l'apôtre Jean ne pense pas seulement au lavement des pieds, mais aussi à la fameuse Sainte Cène, rompre le pain. En racontant le lavement des pieds, il traduit ce qui a de plus profondément marqué toute la vie de Jésus, ce qu'il entend encore transmettre à ses disciples au cours d'un repas d'adieu. Pour l'évangéliste, l'incarnation de Jésus est déjà l'expression de l'amour divin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils bien-aimé. Johannes, Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Par leur faute, les hommes s'étaient rendus incapables d'aimer. Ils s'étaient enfermés en eux-mêmes, et si Jésus est venu parmi nous, eh bien c'est afin de nous rendre la capacité d'aimer. Il a guéri les malades en se penchant sur les plaies qu'ils se cachaient à eux-mêmes comme aux autres. C'est bien ce qui apparaît en toute lumière lors du lavement des pieds. Jésus s'est agenouillé, il a pris nos pieds dans ses mains, encore toutes poussiéreuses, elles étaient encore couvertes des écorchures dues aux épines et aux éclats de pierre du chemin. Oui, tout ça, il a touché ainsi nos blessures. Et les anciens parlaient de tendons d'Achille pour désigner la partie la plus vulnérable. J'en sais quelque chose, pendant au moins un mois, j'ai eu un problème sérieux avec le tendon d'Achille dû à des antibiotiques terribles lorsque j'ai eu la deuxième fois une infection pulmonaire assez sérieuse puisqu'on a dû m'amener aux soins intensifs. Or, à mon grand âge, et dû à mon grand âge, le chef médecin est venu à mon chevet et il a dit « Est-ce que vous êtes d'accord qu'on s'acharne pas sur vous ?» J'ai dit « Mais je suis prêt de m'en aller. » Or, je crois que c'est le lendemain, mais je ne voudrais pas mentir, ou le surlendemain, que j'ai pu prendre un taxi pour rentrer. Enfin, un miracle. Un de plus. Les blessures dont nous souffrons le plus, sont en réalité celles de la mort et de la solitude qui se manifestent avec évidence à ces derniers moments. Ce sont vers elles que s'incline notre Seigneur bien-aimé dans sa propre mort sur la croix. Il vient ainsi pour nous toucher et nous guérir par son amour. Oui, c'est vrai. Pour décrire sa fin, l'apôtre Jean, on peut aussi l'appeler Saint Jean, parce que ils sont saints, tels que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ce sont des saints. Eh bien, Jean reprend la même idée que pour le lavement des pieds, celle d'achèvement. Et au moment de mourir, rappelez-vous que Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». En nous rapportant le lavement des pieds et le discours d'adieu qui le suit, l'apôtre Jean nous livre le sens de la Sainte Cène. En célébrant celle-ci, nous fêtons l'amour de Jésus qui nous a aimés jusqu'au bout. En se donnant à nous sous forme de pain à mâcher, il nous donne comme un baiser, et quand il nous donne son sang à boire, sous forme de vin, eh bien, nous sentons que son amour est plus doux que cette boisson. Nous buvons son amour divin afin de devenir nous-mêmes capables de nous aimer les uns les autres. Nous fêtons son amour porté à l'extrême. Il se penche sur nous qui gisons là avec nos blessures, nos plaies, et il s'incline vers nous pour toucher nos pieds salis par la poussière de nos routes quotidiennes, dégoûtant de toutes les fautes qui ont été accumulées tant par méchanceté que par inattention. À nous de dévoiler à Jésus maintenant, ce que nous cherchons à cacher aux autres, à lui nous devons rien cacher. C'est merveilleux de pouvoir se confier en lui sans rien lui cacher. Il nous touche avec amour et nous rend purs. Dans la Sainte Cène, Jésus met son amour à notre disposition. En elle, il nous rend visible et accessible ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Il n'a cessé de proférer des paroles d'amour, des mots qui, jaillissant de son cœur, débordant d'amour. Eh bien, il nous transmet l'amour du Père. Yahvé l'Éternel, El Shaddai. Il faisait se redresser des personnes qui ne pouvaient même pas supporter d'être debout. Il leur redonnait le courage de se tenir debout toutes seules. En guérissant leurs plaies, il leur donnait de recouvrir leur dignité. Ainsi, ils ont pu ravoir toute leur dignité. Il ramenait à la vie et à Dieu les publicains et les pécheurs que repoussaient les gens pieux. Il les remettait sur la route. En multipliant les paraboles, il allait chercher les gens là, eh bien oui, là où ils en étaient, et en leur parlant de Dieu, de son Père, il leur ouvrit ainsi les yeux. Et c'est au cours du dernier repas de Jésus que l'apôtre Jean, on peut bien dire Saint Jean, situe son discours d'adieu dans lequel, avant sa mort, il redit une fois encore ce qui lui tient à cœur. Ce sont des paroles d'amour qui indiquent la frontière entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Ce sont ces mêmes mots que le Christ ressuscité continue à nous adresser lors de chaque célébration de la Sainte Cène. Il nous dit, à la fois du haut du ciel et comme quelqu'un qui demeure parmi nous, alors ce qu'il avait dit au moment des adieux devient ainsi réalité. Et quand je serai allé, dit-il, et que je vous aurai préparé une place à nouveau, je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Saint Jean, chapitre 14, verset 3. Dans la célébration de la Sainte Cène, nous nous trouvons là où se trouve Jésus, c'est-à-dire dans le cercle intime de ses disciples. Dans son propos et dans ce repas, il nous ouvre son cœur, il se donne lui-même. « Prenez, dit-il, et mangez ceci, et moi. Je me donne donc pour vous, pour que vous puissiez vivre, pour que vous puissiez croire à mon amour et à celui du Père, et pour que vous aimiez ainsi, que vous aimiez ainsi les uns les autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. » Saint Jean chapitre 13, verset 15. Au cours de son dernier repas, à travers le lavement des pieds et sa mort sur la croix, Jésus a enfoui en nous les traces de son amour. Voyez-vous, chaque sainte cène vient les ramener au jour. Si nous la célébrons, c'est pour rendre cet amour visible en ce monde. Il est dit de Jésus, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se leva de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en saignit. Saint Jean chapitre 13 verset 4. Il pose donc, une fois encore, un signe de son amour. Tout comme Jésus, nous savons que nous sommes nous aussi venus de Dieu, et oui, et que nous aurons à retourner à Dieu notre Père. La question est de savoir quel signe d'amour nous donnons, nous. Alors la Sainte Cène n'est pas seulement le repas d'adieu de Jésus, mais aussi le nôtre. Nous célébrons sa mort et sa résurrection et nous anticipons ainsi notre propre mort et notre propre résurrection. Alléluia. Nous reconnaissons que nous aussi, nous ne sommes ici-bas que des hôtes de passage. Ainsi, la célébration de la Sainte Cène vient-elle nous inviter à vivre en toute conscience notre destinée et à laisser aux hommes un signe permanent de notre amour. Tous ces jours-ci, eh bien oui, efforcez-vous de célébrer la Sainte Cène. En ce sens, comprenez maintenant ce que veut dire l'affirmation que Jésus vous a aimé jusqu'à la fin. Oui, il nous a aimés jusqu'à la fin, vous et moi. Qu'il s'est donné pour vous, pour moi. Qu'il se donne lui-même à manger et à boire en quelque sorte. Demandez-vous donc comment vous pouvez retransmettre aux gens que vous rencontrerez aujourd'hui cet amour que vous avez reçu. Comment vous pourrez leur montrer que vous les aimez jusqu'à la fin, oui, jusqu'à la perfection, sans aucune retenue, et que votre message est vraiment l'amour, que c'est là votre dernier mot, c'est-à-dire celui que vous leur laissez en héritage. Dans l'Église orientale, les fidèles reçoivent souvent la communion en croisant les bras sur la poitrine. En croisant donc les bras sur la poitrine. Et ces jours-ci, pourquoi pas, efforcez-vous de méditer en faisant ce geste. Croisez les mains sur votre poitrine et imaginez-vous que le Christ habite dans votre cœur avec cet amour dont il vous a aimé jusqu'au bout, dont il vous aime toujours jusqu'au bout. Gardez donc l'amour de Jésus en votre cœur, comme ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et pensez alors que l'amour du Christ est comme un feu qui vous pénètre tout entier, que en vous tout est en quelque sorte plein de sa chaleur et de sa tendresse. Puis pensez à tous ceux, oui, à tous ceux autour de vous qui vous tiennent à cœur et figurez-vous que ce feu voudrait couler de votre cœur dans leur sens, que vous en deveniez ainsi pour autant moins chaud, mais que, au contraire, vous ressentiez en vous une vitalité nouvelle et une paix intérieure encore plus profonde et la certitude absolue que l'amour divin que vous protégez dans votre cœur, eh bien, elle vaut pour tous ceux autour de vous que vous rencontrerez encore sur votre route. Prions maintenant ensemble pour cette première méditation. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour le testament de ton amour que tu nous as donné dans la Sainte Cène. Je te remercie de venir ainsi me toucher et me guérir, de me pénétrer tout entier de ton amour, de telle sorte que je ne fais plus que un avec toi, qui t'es donné pour moi, toi qui t'es donné pour moi. Oui, alors donne-moi un cœur ouvert afin que tu puisses guérir mes blessures et que ta sainte parole s'incarne en moi en me rendant perméable à ton amour. Amen. Chers amis, notre deuxième méditation, c'est le ressuscité dans ma vie quotidienne. Ce sera la dernière méditation de cette série. Veuillez noter Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Nous entendons mettre ces exercices en pratique dans notre vie quotidienne. Pour un certain nombre de gens, cette volonté est quelque peu dégrisante. Dans la méditation, ils se sentent bien. il percevait en quelque sorte la proximité de Dieu et personne n'entendait rien d'eux. Ils avaient alors l'impression de pouvoir repartir à neuf. Mais dès qu'ils reprenaient le train-train quotidien, il y en a qui constataient que leur belle résolution ne durait guère. Pour aider ces personnes à transposer vraiment ces exercices dans la pratique, je vous propose un dernier texte de méditation, c'est celui de Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Les disciples sont donc revenus en Galilée et ils ont repris leur occupation habituelle, c'est-à-dire la pêche. Simon-Pierre invite 6 de ses compagnons à se joindre à lui. Ils sont donc 7. C'est le chiffre symbolique du sacré. Il indique le lien qu'il y a entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Leur association de travail prend donc la forme d'une communauté de fidèles qui découvre le ressuscité au cœur même de leur vie quotidienne. À eux 7, ils incarnent la promesse que avec tous ceux qui vivent et travaillent avec moi, je peux devenir Église, je peux devenir un lieu de la présence vivifiante et salvatrice de Dieu au cœur même du monde, que toute communauté, même la plus quotidienne, peut devenir communauté de foi capable de faire dans son ensemble l'expérience du ressuscité et d'en témoigner. Mais au départ, ce n'est absolument pas l'impression qu'ils donnent. Ils pêchent. Ils pêchent même toute la nuit sans absolument rien prendre, aucun poisson. Ils perdent ainsi leur temps. Et au petit matin, dans l'aube qui pointe, les voilà qui reviennent déçus et résignés. Tout est morne et gris autour d'eux. Saint Jean raconte ceci. Or, le matin déjà venu, Jésus se tenait sur le rivage, et pourtant les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non, non. » Alors il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Alors ils ont jeté leur filet à droite, comme il a dit, et ils n'avaient même plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Saint Jean, chapitre 21, versets 4 à 6. C'est de la rive, dans l'aube grise, que le ressuscité, maintenant ressuscité, intervient dans leur vie. Il prend ainsi contact avec eux. Il leur parle avec amour, comme à des enfants. Et il les interroge sur ce dont ils disposent. Ont-ils de quoi à manger? Et ont-ils quelque chose à lui offrir? De même, Jésus s'inquiète-t-il de savoir si j'ai tous les jours ce dont j'ai besoin, de quoi me nourrir? Oui, Jésus s'occupe de vous et de moi. et il me propose un conseil sur la façon de réussir ma vie. Il peut me fournir ce dont j'ai besoin pour vivre. Je dois reprendre les activités qui étaient les miennes avant les exercices. Mais je dois le faire en toute conscience. C'est ce que signifie le côté droit. Je ne dois pas me relancer aveuglément dans ce qui a toujours été. Il me faut désormais prêter attention à tout ce que je fais. Il me faut être présent à chaque instant à mon travail du moment. Alors tout change et je découvre Dieu dans tout le présent. Ce n'est plus maintenant sur ma simple initiative que je me livre à ma tâche, non, mais sur l'ordre de Jésus. En tout ce que je fais, je dois donc veiller à rester au service non pas de moi-même, mais de Dieu. Si chaque matin, en me levant, je me dis « C'est en ton nom que je me lève, mon Père céleste, et je suis tout à ton service », ça c'est déjà une aide très puissante. De fait, les apôtres attrapent tant de poissons que même le filet s'est rompu, ou presque. Je ne sais pas exactement, mais il paraît qu'il a pu se rompre selon une version allemande. Quand sur la vie de Jésus, je mène ma vie quotidienne en pleine conscience, c'est-à-dire dans la foi et dans la conscience de sa présence, eh bien là, je vois s'articuler tout ce que je ne réussissais pas à harmoniser, je puis me réconcilier ainsi d'un seul coup avec les contradictions qui me déchiraient. Je peux surmonter en moi les oppositions entre la prière et le travail, ma profession et ma famille, mes besoins et mes sentiments. Je cesse ainsi de résister. Tout est bien comme tel. Tout a donc un sens. Ce qui est carré et anguleux se courbe. Ce qui n'était jusque-là que juxtaposé s'accorde désormais et devient rond. Vous jetez le filet et vous ne pouvez plus le ramener tellement il est plein de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à l'apôtre Pierre, « Mais c'est le Seigneur !» Et à ces mots, « C'est le Seigneur !» Simon Pierre mit son vêtement, il a mis son vêtement, il était probablement nu, et il s'est jeté à l'eau. Saint Jean chapitre 21 verset 7. Pour moi, cette phrase « C'est le Seigneur », c'est celle qui ouvre le chemin sur lequel nous pouvons rencontrer tous les jours notre Jésus, le ressuscité. Le propre des exercices, c'est de me permettre de rester continuellement en prière et de me redire constamment « Oui, c'est le Seigneur. Le Seigneur est avec moi maintenant. Il est avec moi quand je suis devant mon ordinateur au bureau et que j'écris. C'est le Seigneur quand je m'entretiens avec quelqu'un. C'est le Seigneur, je me joins à la prière du cœur. C'est le Seigneur quand je vais en ville. » Quand j'ai, on peut dire, quand j'ai présente à l'esprit cette merveilleuse phrase dans les situations les plus quotidiennes même, eh bien, je prends forme, une forme neuve, car je sais quoi ? Je sais que la résurrection, elle a lieu, même dans ma vie la plus quotidienne, au milieu de mes occupations les plus banales. Et cela vient éclairer d'un seul coup la grisaille de l'aube. L'atmosphère change du tout au tout. Je ne suis plus abandonné à moi-même. J'agis sous les yeux pleins de tendresse de Dieu, mon Père, et en communion avec le ressuscité, avec Jésus. Il est à mon côté et il emplit la journée de la chaleur de son amour et de la lumière de sa résurrection. Quand les disciples ont péniblement tiré sur le rivage le filet et ses 153 poissons, voici que Jésus dispose déjà de pain et de poissons qui grillent sur le feu. Ce n'est pas très logique, évidemment, car au début du récit, il leur avait demandé s'ils avaient du poisson. Mais la résurrection n'est pas logique non plus. Si nous vivons chaque jour en pleine conscience et sur l'ordre de Jésus, voici qu'il y a d'un seul coup assez à manger pour tous et c'est alors qu'il y a une sorte de résurrection. Le ressuscité dit aux disciples « Venez déjeuner ». Mais ils n'osent pas lui demander qui il était, car ils savaient au fond d'eux-mêmes que c'était le Seigneur. L'atmosphère qui règne est très spéciale. Voici que soudainement le ressuscité se trouve au milieu d'eux. Mais ils n'osent pas l'interroger, car ils savent que c'est lui. Et d'un seul coup, la pénombre de l'aube s'illumine, et les disciples et leur maître ne forment plus qu'un tout, une communauté pénétrée de chaleur et de tendresse. Ils partagent ainsi le repas comme ils l'ont si souvent fait avec Jésus. Jésus vient et prend du pain et le leur donne, et de même le poisson. Saint Jean chapitre 21, verset 13. Dans chaque célébration de la Sainte Cène, c'est le ressuscité qui vient au cœur de notre vie. De l'autre rive du ciel, il vient, Jésus, dans notre vie si grise. Il fait ce qui était terre étrangère, une patrie. Il fait de cette terre étrangère une patrie qui est transformée, et il transforme ainsi la froidure. Il la transforme en chaleur et change la grisaille en douce lumière du matin tout neuf. Il donne ainsi aux disciples du pain et du poisson. Le pain est la nourriture quotidienne qui nous donne la force de mener à bien notre travail, et le poisson est la nourriture de l'éternité, c'est-à-dire celle du paradis. Dans chaque sainte scène, le Christ vient donc nous fortifier de sa chair et de son sang pour nous permettre d'accomplir notre tâche. Mais dans chaque sainte scène brille également le paradis, et le Christ nous donne l'aliment d'éternité de son corps et de son sang divin. Alors, au milieu de la grisaille de l'eau, c'est notre patrie qui se révèle, l'intimité avec celui qui vit désormais avec son Père des cieux, mais qui n'en reste pas moins parmi nous, et qui vient pour changer notre quotidienneté en clarté divine. Cependant, le repas matinal, ce repas de pain et de poisson, ne renvoie pas seulement à la Sainte Cène, mais bien à toute rencontre avec le ressuscité au cours de la journée. Si nous proférons le cri « C'est le Seigneur !» Si nous disons cela dans toutes les situations de notre vie, par exemple, si nous croyons que nous le rencontrons bien dans la désespérance, dans cette désespérante grisaille de l'aube, de la journée parfois, eh bien le brouillard matinal vient aussi s'éclairer ainsi pour nous tous, tandis que le ressuscité nous tend le pain et le poisson. Le ressuscité, Jésus, nous donne assez de force pour tenir toute la journée et il nous tend aussi la nourriture de l'immortalité, c'est-à-dire celle qui porte au-delà, bien au-delà de notre vie. Nous ne pouvons supporter la vie ordinaire que si nous savons qu'elle n'est pas tout, que c'est pas la fin de tout, et que nous avons notre partie, je voudrais dire plutôt que nous avons notre patrie qui se trouve dans le ciel. C'est ça que je aimerais vous transmettre. Et que dans notre cœur, nous cinglons vers le grand large et vers l'éternité de Dieu. Donc, chers amis, la résurrection fait éclater les limites de notre quotidien et fait pénétrer l'éternité dans la nuit au sein de laquelle tout paraît vain. Le récit d'apparition, ou plutôt d'apparition, parce que c'était une apparition qui a eu lieu, rappelez-vous, au bord du lac de Galilée. Cette apparition nous reconduit vers les exercices à la quotidienne. Il entend ainsi renforcer notre conviction que le ressuscité se rend présent au milieu de notre travail, présent au cœur de notre tâche journalière, présent pour transformer notre vie. Les exercices veulent donc nous introduire à une nouvelle vision des choses qui nous aidera à affronter nos journées ordinaires. Ils entendent ainsi nous donner un nouveau regard qui nous permet de découvrir le Christ présent en tout ce que nous faisons, lui, Jésus, qui vient nous faire passer de la grisaille matinale à la douce chaleur de sa présence. Lui qui se tient sur la rive de l'éternité, celle d'un matin sans plus de crépuscule, oui, celle où il nous attend finalement. Engagez-vous donc, chers amis, dans une dernière méditation concrète. Pourquoi pas? Commencez donc ainsi le matin déjà, dès que votre réveil sonne, hein? il y en a qui sonnent, il y en a qui font des vibrations, et poursuivez tout cela tout au long des heures. Et vous faites votre toilette, vous vous habillez, vous priez, vous prenez votre petit déjeuner, vous vous rendez au travail. Pensez qu'à cet instant, le ressuscité est là près de vous. C'est le Seigneur. Oui, vous pouvez dire, c'est le Seigneur. Et pouvez-vous vous répéter dans chaque situation? Vous découvrirez ainsi peut-être, avec étonnement, comment habituellement vous viviez sans aucune relation au Christ et combien vos journées étaient peut-être banales. Mais, si de façon consciente et attentive, vous faites tout en présence du Christ, alors votre vie quotidienne en sera transformée. C'est une évidence. Et plein de reconnaissance, vous vous apercevrez que vos contradictions vont se résolver, que par exemple tout va se réorganiser, que les oppositions apparemment les plus insolubles vont s'effacer. Je ne dis pas que c'est automatique, je ne prétends que ce n'est pas une baguette magique, mais croyez-y de tout votre cœur avec la foi en Jésus, et ça aura lieu, croyez-moi, c'est vrai, et que votre vie peut ainsi devenir une réussite. Cela n'est pas dû à votre mérite, à mon mérite, jamais, mais c'est l'effet de l'expérience de la résurrection au cœur de notre vie. La résurrection n'a rien d'étrange et d'incompréhensible. Elle n'a rien à avoir avec une dispute au bord du tombeau du Christ pour savoir s'il est vide ou non. Il s'agit de croire que le ressuscité entend me remettre debout, que la résurrection est pour moi une réalité actuelle, et dès que je me redresse de mon angoisse et que j'ose faire un pas vers l'entretien que je ne cesse de repousser, et dès que je fais éclater les limites d'une relation qui ne me convient plus, et dès que je me lève et me tiens debout tout seul, parce que je vois maintenant Jésus-Christ ressuscité qui se trouve présent à mon côté. En conclusion de ces exercices, je vous souhaite donc de redécouvrir sans cesse ce ressuscité présent au cœur de votre vie, de vos luttes et de vos actes. Prions pour terminer cette série. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as transformé la grisaille matinale de ma vie quotidienne pour me faire surgir dans la lumière de ta magnificence divine, oui, fais-moi découvrir la présence du ressuscité au cœur de mes situations les plus quotidiennes, dans mon travail, dans mes déplacements, mes déceptions aussi, dans mes relations et dans ma solitude. Fais-moi reconnaître que depuis la rive de l'éternité, tu es entré dans ma vie et que tu fais rejaillir celle-ci dans la douce lumière de ton amour. Donne-moi de percevoir la résurrection au cœur du quotidien pour que je puisse me lever du tombeau de mon angoisse et de ma résignation et que je puisse entrer dans la vie que tu me donnes maintenant avec l'apôtre Jean. Nous pouvons dire ensemble maintenant, donne-nous de découvrir que tu es déjà là et que nous puissions aller partout en répétant, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Demain matin, nous ferons la deuxième partie de l'importance de la prière. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'était la première partie. Demain, Dieu voulant, nous entamerons la deuxième partie. Et chers amis, je voudrais essayer. C'est pas évident, mais c'est pas défendu d'essayer de vous transmettre quelques chants et musiques que j'ai enregistrés avec ce qu'on appelle sur bande avec le Revox. Et après, il y avait des cassettes. C'est évidemment pas la même chose que les CD. Et surtout que l'équipement était primaire. Oui. Mais j'essaye de vous transmettre un ou deux chants de ce temps-là. Et que le Seigneur vous bénisse richement à tout point de vue. Amen.
Quand ils m'ont jugé, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient de moi. Quand ils m'ont jugé, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Il y avait un homme en rouge qui s'acharnait sur moi. Précis comme la foudre et lourd comme la loi. Je ne savais pas que j'étais si violent, que j'étais si violent. Je ne savais pas que j'étais si méchant, que j'étais si méchant. Oui, mais pour ma défense, un autre a palabré, faisant voler ses manches au vent de ses idées. Je ne savais pas que j'étais si petit, que j'étais si petit. Je ne savais pas que j'étais si gentil, que j'étais si gentil. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, et j'ai peur tout seul devant tous ces gens de bien qui étalent au grand jour les secrets de mon cœur et n'y comprennent rien. Messieurs les jurés, ne me jugez pas trop, ne me jugez pas trop. Messieurs les jurés, mettez-vous dans ma peau, mettez-vous dans ma peau. Regardez dans vos glaces vos têtes d'hommes forts. Vous verrez les grimaces des condamnés. Alors, quand ils sont rentrés, ils ont baissé les yeux, ils ont baissé les yeux. Ils avaient jugé un enfant du bon Dieu, un enfant du bon Dieu. Quand ils sont rentrés, ils ont baissé les yeux, ils ont baissé les yeux. Ils avaient jugé.
Ma vie est un vrai gala. Toi, je t'aime. Je n'existe pas. Je monologue, je ne parle pas. Je te regarde sous mes paupières. Je mets ma tête en idée sur ton sein. Je rêve. Je recrée ton âme, je recrée ton corps. Je me prolonge en toi comme le fleuve dans la mer. Ici, je me rappelle les presque rien que tu m'as dit. je pourrais te réciter par cœur tout notre amour. Je suis toi. Parfois, j'aime presque que tu ne sois pas là pour mieux te vivre, te revivre. Ça nous change avec ici où on fait de la conserve. Moi, je mets en boîte dans cet hiver de solitude. J'étiquette, j'empaquette, j'empile, tu vois, je radote même parfois. Mais toi, quand tu écris, si tu ne sais quoi dire, écris 100 fois, je t'aime, tout simplement. Car 100 fois, ce n'est pas beaucoup, et ce ne sera jamais assez, tu sais, pour tout ce qui s'aime. À Pâques ou à la mi-carême, quand je serai libéré, dès que j'aurai fini ma peine, oh que j'irai t'embrasser dans notre jardin de naguère. Les roses ont dû refleurir. Si tu en portais à ma mère, ça lui ferait bien plaisir. Marie, Marie. Écris donc plus souvent, Marie, Marie. Au 14 200, je travaille à la bibliothèque. Je m'y invente du bon temps. J'ai pour amis tous les poètes, Baudelaire, Villon, Chateaubriand. Ici, tu sais quoi qu'on en pense. Certains essaient d'être gentils. On a du dessert le dimanche, d'autres la télé le samedi. Marie, Marie, écris donc plus souvent, Marie, je t'en supplie, aux 14 200, à Pâques ou à la mi-carême. Il reviendra bien ce temps où tu pourras dire je t'aime aux 14 200.
D'aujourd'hui, que deux enfants d'Ormingen, deux jeunes qui s'étaient enfuis de la prison d'Ormingen, ont voulu vivre l'aventure. Mais ces deux Stations avaient volé pour aller passer leur week-end d'enfants évadés de la prison de Hormingen, avaient volé une voiture.
Allô, à tous les services, à tous les postes de police. Une DS couleur grise numéro 5008MM est signalée volée par deux jeunes évadés de Hormingen. Je répète, DS couleur grise 5008MM, attention, à l'intérieur, deux jeunes évadés de Hormingen.
Ils ont dansé jusqu'au matin, les deux enfants de Hormingen, en se disant une nuit de moins. Quand c'est du Hormingen, c'est toujours mieux, je vous assure. Car en prison, on est tout fait, bien qu'il restait deux mois à peine pour retrouver la liberté. Mais nous, on a ça dans les veines et l'on préfère la nature.
Allô, allô, à tous les services, à tous les postes de police. La voiture signalée volée DS couleur grise 5008MM par deux jeunes évadés de Hormingen vient d'être repérée devant le cabaret Embassy. Ils en sortent. Nous sommes en train de filer.
Ils ne sont pas allés bien loin, les deux enfants de Hormingen. Il y avait partout dans tous les coins des phares, des flics et des sirènes. Et là soudain stop, un barrage. Ils ont voulu passer quand même, ils ont foncé droit devant eux. Un gendarme a tiré sur eux. Un gosse de 18 ans à peine a dit c'est la fin du voyage.
Allô, allô, à tous les services, à tous les postes de police. La voiture signalée volée, numéro 5008NN, par deux jeunes évadés de Hormingen, vient d'être enfin récupérée. Les entendant s'enfuir, l'un des deux jeunes évadés n'a été que blessé, tandis que l'autre, touché au thorax et à l'abdomen, a succombé à ses blessures. Il s'agit de Jean-Claude L., 18 ans, de Namur. Dans 8 semaines, il aurait été libre.
Ô prison noire de mes vieux jours, que tant d'autres haïront toujours. Tu n'es pour moi qu'une ombre austère dont je ne sais vraiment que faire. Quand tes portes se sont fermées sur ma solitude glacée, je venais de tuer mon frère. Les juges m'ont bien retourné. Ils m'ont donné perpétuité. Des nuits et des nuits ont passé. Un jour, il est venu me visiter un homme qui m'a parlé de liberté. Liberté à moi, qui ai plusieurs fois tenté de fuir. Mais j'avais rien, rien à lui dire. Et puis soudain, dans mon cœur vide, j'ai senti monter la hantise de me retrouver seul demain, dans ma cellule aux quatre coins. Et j'ai crié, oui, j'ai crié. Il fallait qu'il me revienne vite pour me parler avec entrain de l'amour, de ces clairs matins où l'on a soif de son pardon, où l'on a soif de sa lumière. Oui, j'ai crié, oui, j'ai prié ce Dieu qu'autrefois je raillais. Et comme un aveugle guéri voit la couleur du ciel, enfin, j'ai senti s'alléger ma vie. J'ai senti dans mon cœur chanter la foi, l'espérance, et l'amour de celui qui m'a dit ce jour, tous tes péchés te sont pardonnés. Reçois donc ma liberté. Et alors, j'ai trouvé la paix. En acceptant d'être sauvé, en acceptant d'être gracié, même si je reste un condamné pour la société, mais d'être gracié par lui, Jésus-Christ, à perpétuité. Les légions de la haine envahissent la terre en chassant.